Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Rotten et Daniel Riolo, bien sûr, dans quelques instants l'Allemagne, dans quelques instants notre débat économique du soir, économique sportif, hein, vous allez voir, ça va être très intéressant. Mais d'abord la deuxième mi-temps de Pau-Bordeaux, et c'est chaud, il y a occasion sur occasion pour les Girondins, là, Nicolas Paolorsi.
Ouais, on joue la 52e minute, il y a toujours 2-1 pour Pau, mais les Girondins qui viennent de toucher le poteau de Jonathan Cafou sur un centre fuyant qui vient trouver le deuxième poteau de Bertrand qui était pour le coup battu. Les Palois résistent, mais Bordeaux qui pousse, hein, sur une pelouse catastrophique, il faut le dire. Et il y a encore une belle occasion là avec Wang dans la surface de réparation qui va rouler, ça frappe, ça sera à côté du but de Bertrand. Ça pousse, mais les Bordelais manquent de justesse dans les derniers mètres. 2-1 pour Pau, la 52e.
Et tu nous appelles dès qu'il se passe un truc, évidemment. Alors vous le savez, on parle souvent, grâce à Jean-Michel Aulas, des bidas dans le monde du football, désormais, enfin surtout avec lui, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup avec les autres présidents, à vrai dire. On se pose souvent la question de savoir quel est le vrai projet, la vraie ambition des dirigeants des gros clubs mondiaux regardent aussi ce que disent les classements économiques les concernant. On a par exemple constaté il y a quelques jours que le Barça est devenu le club le plus riche du monde. Ça vous a pas échappé. Et ça compte dans désormais la vie des clubs. Et souvent dans l'after avec les drôles de l'âme, quand on parle de ces gros clubs européens, parce que là on parlera des grosses écuries, on se dit mais en fait au final leur but c'est quoi? C'est de faire avant tout de l'argent ou de gagner des trophées? Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin.
Sachant que les
ce soir,
il n'y en a pas beaucoup à se partager. Donc à un moment, il faut poursuivre plusieurs lièvres.
Et oui.
On va en parler avec Michael qui est avec nous. Michael est aux États-Unis.
Il a une vision US du sport.
Il a une vision US du sport.
C'est souvent très intéressant.
Michael, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Michael. Salut Michael.
Alors je précise que tu es spécialiste dans le domaine en stratégie d'entreprise, hein, donc tu es tout à fait apte à nous faire des parallèles entre la vie d'une entreprise, d'une grosse entreprise internationale.
Ouais,
j'allais y venir. Et ce qui se passe dans le monde du foot. Alors, en fait, tu es là avec nous ce soir parce que tu nous as écrit un petit mot très intéressant et on voulait rebondir sur ce sujet avec toi parce que tu as une lecture assez précise de ce qui se passe dans le monde du foot en prenant l'exemple de Manchester United qui est aujourd'hui une sorte de pavillon témoin en fait de ce qui se passe dans les grands clubs en termes d'objectifs comparatifs entre le sportif et le financier. Alors toi qui bosses avec des grosses boîtes américaines, est-ce que tu es étonné par ce que tu vois actuellement dans le foot ou est-ce que tu peux établir des parallèles assez logiques entre le monde de l'entreprise classique et le football?
Alors rien ne m'étonne et je dirais même que c'est juste normal. Je crois qu'avant mon intervention, quelqu'un, si ce n'est, ça doit être toi ou Daniel Riolo, qui disait est-ce que le but d'un club de football, c'est de faire de l'argent? Bah, bien évidemment, parce que le but d'une entreprise, c'est de devenir riche, de faire de l'argent. Comment payer vos employés? C'est en essayant d'avoir de plus en plus de revenus. Donc oui, c'est juste logique. Maintenant, par rapport au foot, ce qui est peut-être difficile, surtout en Europe, c'est de passer cette transition de la manière traditionnelle de voir le football, à savoir la valorisation de mon club dépend forcément du nombre de matchs que je vais gagner le samedi ou le dimanche, à, je dirais, une vision moderne où le revenu dépend de énormément de catégories différentes.
Alors, en allant plus loin là-dessus, allons directement sur l'exemple de Manchester United qui va parler au plus grand nombre en fait, hein, parce que Manchester aujourd'hui est dans une situation quand même assez compliquée au niveau sportif, enfin à l'échelle de Manchester.
Compliqué vu de.
Non mais attends, laisse-moi finir parce que si tu me à l'échelle de Manchester de ce qu'ils sont en général, là ne pas être dans les quatre premiers de première ligue, on peut considérer que c'est un échec sportif avec un coach contesté et paradoxalement ils ont des résultats financiers qui sont excellents. Donc on peut tenter de se dire maintenant les actionnaires ils veulent quoi? Les Glazers, ils sont contents de la situation ou pas?
Alors, les Glazers, bien entendu, sont très contents de la situation. Mais avant d'aller aussi loin, on va établir quelques bases. Parce que sinon, les auditeurs ne vont pas comprendre. Et la base la plus importante, c'est de comprendre quelle est la différence entre le métier d'investissement et le loisir du jeu d'argent. Parce que les deux sont basés sur le pari sur le long terme, le pari sur le futur, en prenant des décisions sans information complète. Mais la différence majeure, c'est que lorsqu'on est un investisseur, le but, c'est de gagner de l'argent et la stratégie d'investissement permet un retour positif sur le long terme. Lorsque vous allez au casino, par exemple à Vegas, votre espérance est négative. Plus vous jouez, plus vous avez de chances de perdre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Pourquoi c'est important? Parce que j'entends sur votre antenne, par exemple, beaucoup de gens dire « investir dans le foot ne gagne jamais d'argent ». Et dans les faits, c'est vrai qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent en investissant dans le foot. Mais pourquoi? Parce que justement, la manière traditionnelle, c'est que les clubs de foot, leur destin est intimement lié par rapport aux résultats sportifs et les résultats sportifs sont très aléatoires. Vous êtes des experts et pourtant, vous êtes incapables de me dire sur les 10 prochaines années quels sont les clubs qui vont gagner. C'est très, très difficile.
Ouais, c'est vrai.
Donc, Manchester United est le plus grand club au monde, est devenu le plus grand club au monde parce que c'est le premier club moderne. C'est le premier club de football à avoir réussi à isoler l'aléa sportif, à découpler la réussite financière de la réussite sportive. Et par rapport à ça, c'est juste extraordinaire.
Mais je suis pas sûr que les supporters de Manchester pensent la même chose.
Alors, déjà, tu parleras parce que tu m'as parlé dans ton mail des supporters. Mais mettons ça de côté juste un instant, tu viendras après. Mais est-ce qu'à un moment, comment tu fais pour déconnecter le résultat financier du sportif, ouais, sachant que souvent c'est quand tu gagnes que tu rentres du blé, que tu augmentes ta notoriété, que tu conquiers de nouveaux marchés, notamment les marchés asiatiques. Ou est-ce qu'une fois que c'est fait, quand t'as gagné, tu gardes tes parts de marché et tu les perds plus?
Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé. Et je dirais que ce qui se passe, c'est qu'il y a une latence. C'est-à-dire que si vous continuez à perdre, si Manchester continue à perdre, bien entendu, au bout d'un moment, il y aura un impact par rapport à l'aura de ce club. Mais ce n'est pas aussi rapide. Peut-être que d'ici 10 ans, si Manchester continue à perdre, alors Manchester deviendra ce petit club régional au nord de l'Angleterre dont personne ne connaît le nom. Mais ça va prendre des années. Regardez par rapport les grands clubs qu'on les appelle. Aujourd'hui, il y a des grands clubs comme le Milan AC qui ne gagnent plus rien et pourtant continuent d'avoir ce rayonnement un peu, beaucoup moins même que Manchester. Mais ça prend du temps. Et le parallèle que je fais, c'est avec les entreprises. Si vous vous souvenez, dans les années 90, fin 90, début 2000, l'entreprise que tout le monde aimait détester, c'était Microsoft. Et tout le monde disait Microsoft, ils n'offrent plus, c'est que juste des produits qui sont super chers et personne ne veut l'utiliser. Et au bout d'un moment, les ventes de Microsoft, les revenus de Microsoft ont baissé et les stocks, donc les actions, pardon, de Microsoft ont baissé. Et ça a forcé Microsoft, justement, à renouveler leur gamme, à innover. Et la manière dont je vois Manchester United, c'est que ce club-là, aujourd'hui, est en train de manger sur tout ce qu'ils ont réussi à récolter auparavant.
Ah ouais, ça veut dire que tant que tu n'auras pas une baisse sensible des revenus, on se dira, il n'y a pas de raison de s'affoler ou de changer quoi que ce soit. Et ce n'est pas deux saisons ou trois saisons ratées de suite avec quatre joueurs tocards dans l'équipe qui vont nous affoler. Tant qu'on n'aura pas des courbes réellement qui s'inversent, comme dans ton exemple de Microsoft, on ne va pas s'affoler, on ne va pas essayer de virer les entraîneurs. Et
Alors à ce stade du raisonnement, Jérôme, t'en penses quoi, toi? Tu te dis, mais attends, on est chez les fous là? Ou tu deviens aussitôt aussi un peu cynique en disant, bon, de toute façon, maintenant c'est comme ça?
Bah, c'est compliqué pour moi de parler de ça parce que moi je suis trop dans
l'affect sportif.
Oui oui je suis encore joueur, alors même si j'y suis plus sur le terrain bien sûr, mais c'est compliqué quand t'es joueur ou ancien joueur d'entendre ça, parce que bien sûr qu'il y a des stratégies, on est loin d'être con. Quand t'es dans un club, tu sais, et j'ai connu ce genre de stratégie, par exemple au Paris Saint-Germain, quand tu passais de Canal à Colony Capital, il y avait une vraie stratégie de la part de Colony Capital, et quand tu t'investis dans le club, tu remarques qu'il y a
tu pensais qu'ils allaient investir parce que tous les ans on disait ça,
exactement,
ça venait pas, donc toi tu pouvais être déçu, mais en fait voilà, derrière, j'en avais rien à cirer. Quoi.
Alors, il y a un contre-exemple, excusez-moi. Le Real Madrid.
Quoi?
Le Real Madrid, la moindre mini-crise sportive devient une priorité absolue. C'est-à-dire que, tu vois, tu as un match long gagné, même tu fais deux fois match nul, quoi, tout de suite crise.
Et oui, parce que
pourtant, c'est intéressant d'avoir l'avis de Michael sur les différences de culture.
Et pourtant, eux, la performance économique.
Revenus, ils sont là.
Ils sont là, ouais. Et ils y font attention aussi. C'est aussi crucial pour eux.
Ouais. Donc,
Michael,
alors par rapport à ça, il y a déjà, oui, effectivement, une différence de culture, mais il y a une différence encore plus majeure, c'est que Manchester United est une entreprise coté en bourse. Lorsque je vous entendais parler de Jean-Michel Aulas, et vous vous dites assez souvent sur cette antenne que Jean-Michel Aulas a la langue de bois, ne dit jamais des choses intéressantes.
Non, on dit qu'il est cramé.
Mais quand Jean-Michel Aulas passe à l'antenne, à qui il s'adresse? Il s'adresse aux actionnaires. Il est en train de parler aux gens qui vont dépenser leur argent pour acheter des actions de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, je crois, c'est 175 millions de dollars, quelque chose comme ça, de capitalisation boursière. Manchester, c'est 3,3 milliards ou 3,5 milliards de dollars. Ouais, au bout d'un moment, faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est important pour le CIO, pour
l'entreprise. Ouais, non, d'accord.
Donc, quand Manchester parle des résultats, avant tout, ils vont s'adresser aux actionnaires. Et les actionnaires, et aujourd'hui Manchester, je crois que c'est New York Stock Exchange, ça veut dire que n'importe qui peut acheter les actions de Manchester. La plupart des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est de faire de l'argent. Le Real Madrid, c'est un club privé, c'est différent. En plus, c'est aux mains des socios, qui sont pour le coup vraiment pratiquement uniquement intéressés sur le plan sportif. Donc par rapport à ça, c'est difficile de comparer.
Ok, bah écoute, comparaison n'est sans doute pas raison dans ce cas alors.
Et qu'en est-il, parce que on parlait de Manchester, du moment où on parlait de la période qu'il faut pour que, en gros, tu décroches en notoriété à cause de tes résultats sportifs et que donc ça fasse baisser aussi les finances. Qu'en est-il de, pour les Glazers, pour les Américains, de ce que peut penser le public de Manchester United, l'environnement sportif qui va commencer à se plaindre.
Et ils ont l'air venus, qui vont.
Oui, mais s'il y avait dans le stade des contestations, s'il y avait dehors des manifestations, qu'en est-il de ça, de leur pensée par rapport à ça?
Ouais, et Daniel, je pense que tu as totalement raison là-dessus. Ça veut dire que l'épine pour les Glazers, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que comment Manchester fait de l'argent? En fait, il faut qu'on arrête de se leurrer, c'est que les consommateurs sont avant tout des fans de Manchester United.
Évidemment.
Donc, ce qui pourrait vraiment être dangereux pour les Glazers, et c'est la seule chose qui pourrait effectivement faire changer d'avis, c'est que le stade entier continue à chanter, comme je crois samedi dernier ou mercredi dernier, lors d'une victoire, les Glazers out, ou même insulter les Glazers.
Et ça, c'est depuis le début, quasiment. C'est depuis le début. Je me souviens des manifs quand ils ont pris le club. Il y avait déjà des manifs au moment où, tu sais, certains anciens fans étaient partis monter un club à côté, le FC Manchester.
Ouais. Mais c'est une anecdote.
Oui, c'est anecdotique. Dans le grand business, c'est anecdotique, c'est vrai.
Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les fans de Manchester, en France ou en tant que fan de football, on a toujours tendance à penser aux personnes complètement hardcore, le cœur des supporters. Mais Manchester, alors, en fait, ce qui les intéresse, c'est vraiment le grand public. Il faudrait que le grand public se détache de Manchester.
On faisait le parallèle avec L'Oréal, qui n'est peut-être pas le bon. Alors, allons plus loin dans le parallèle avec Lyon. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il est devenu actionnaire de l'ASVEL, le club de basket. Il va créer une salle omnisport à côté de son nouveau stade. Il a acheté une équipe féminine aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans le même
stratégie
à l'échelle française.
Depuis des années.
Et voilà, en fait, il a intégré.
Jean-Michel Aulas est un vrai CEO moderne. Et exactement. Je trouve ça extraordinaire. Je crois qu'il y a quelques années, il disait sur votre antenne d'ailleurs, il se prétendait être un petit entrepreneur régional. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'au fil des années, il est en train de devenir un vrai CEO de carrure internationale.
Et
c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire.
Et surtout, il a intégré.
Là, une nouvelle fois, les supporters de Lyon vont te dire : mais quoi, t'as rêvé ou quoi ? T'as vu l'équipe qu'on a ? C'est ça la différence.
L'objet de la communication sera l'objet de la communication nous ramène à ce que fait Jean-Michel Aulas depuis longtemps maintenant. Et c'est là où Michael a raison, c'est qu'il a intégré le fait qu'il ne peut plus gagner le championnat de France, et il le dit et il s'en plaint, et sa communication a souvent été là-dessus, donc il se met dans un rôle de victime de ce point de vue-là. Et il a intégré aussi, et les supporters aussi, qu'il ne peut pas gagner la Ligue des Champions, que donc les deux compétitions majeures dans lesquelles il est lancé, il ne peut pas les gagner. Donc il développe autre chose, c'est le concept OL. Et comme il est l'incarnation de l'OL, qu'il a des souvenirs à vendre, qu'il a une histoire positive à vendre, eh ben, il œuvre autrement pour le bien de l'OL. Et les supporters, grosso modo, le suivent. Là où ça déconne pour lui.
Enfin, non, ils le suivent pas toujours.
Attends. Là où ça déconne pour lui, c'est quand Lyon est dans une situation comme actuellement, c'est-à-dire trop loin au classement. Lui, sa seule épine dans le pied, c'est ça. Mais si Lyon était 2 ou 3, avec un PSG de toute façon plus fort et tout, le deal, il est nickel. En Ligue des Champions, tu vas en huitième, le deal, il est nickel.
Mais non, c'est pas
parce
nickel.
Que t'es dans les clous.
Mais non.
Bah si, si, si.
Non, t'es
dans les clous.
Non, parce que c'est pas nickel, parce que encore une fois, là on parle de Wallace,
hein,
Michael a raison, si tu veux, on regarde d'un point de vue économique, il a fait de ce club une machine de guerre.
Ouais.
En France, et ça on peut pas lui reprocher. Moi, quand je dis il est cramé, c'est sur l'aspect sportif. Mmh. Et aujourd'hui, moi je vais bien, Daniel, quand tu dis oui, il communique dans la sorte en disant bah oui, mais Paris c'est trop fort, donc on peut pas lutter. C'est pas vrai. C'est pas vrai, encore une fois, parce qu'il y a des équipes qui ont bien montré qu'ils pouvaient concurrencer le Paris Saint-Germain, même les dépasser ces dernières années.
Mais d'accord. C'est pour ça que je te dis que dans son esprit, il faudrait quand même qu'il soit deux ou trois max. Et aujourd'hui, cette com a du mal à passer parce qu'il est trop loin.
Et c'est pour ça, c'est ça, à mon avis, en début d'année, que il est loin d'être con, Jean-Michel Aulas. C'est pour ça. Moi, je dis, il est cramé. Sportivement, il est cramé parce que les idées qu'il avait.
C'est juste qu'il s'est mal entouré sportivement.
Non, mais c'est ça.
Lui, en tant que patron, t'inquiète, il est pas cramé.
Mais je pense, en tant que président, aujourd'hui, il est cramé. Et que c'est pour ça qu'il a voulu déléguer à Juninho, qu'il a voulu déléguer en début d'année à Silvinho, en se disant, je suis déchargé du côté sportif, plus ou moins. Eux, ils vont s'en occuper. Eux, ils vont peut-être relancer la machine. Et on va peut-être, de nouveau, être une machine de guerre sportivement, comme on l'a été sur le début des années 2000. Le problème, c'est que bah, ça n'a pas fonctionné. Donc, il n'a même pas laissé un temps un peu plus long que prévu. Hop, il a repris les choses en main. Il s'est dit, bon, de toute façon, on est cramé sportivement. Cette année... c'est une année blanche, et c'est pour ça qu'on n'a pas de recrues pour le mercato. C'est pour ça aussi que Jean-Michel Aulas, il met en avant là, ses grandes conférences de presse, et il a raison de le mettre en avant, mais nous parler du côté financier, de nous raconter des mots bien précis sur les trucs, mais sportivement, il a rien à dire, parce qu'il est à la rue complet.
Michael.
Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant ce que tu es en train de dire, parce que juste avant, je croyais que votre débat c'était est-ce que il faut forcément que dirigeants viennent du monde du foot. Et je suis d'accord plus ou moins avec ce que dit Daniel, c'est-à-dire que pas besoin d'avoir été cheval pour être jockey. Et effectivement, c'est vrai. Maintenant, si on regarde qui sont ceux qui ont réussi dans le foot, généralement, ce sont des gens qui ont une compétence en tant que dirigeant, mais qui savent surtout très 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 bien s'entourer. Oui, regardez exactement. Liverpool par exemple. Le renouveau de Liverpool, qu'est-ce que c'est? Qui est à la tête de Liverpool? C'est Peter Moore. Peter Moore, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'ancien CEO de Sega, de EA, donc dans les jeux vidéo. Et avant ça, c'était un vendeur de Reebok. Et ce mec-là est à la tête de Liverpool et en train de transformer catégoriquement Liverpool. Pourquoi? Parce que dans sa carrière, cette personne a prouvé que c'est une machine extrême dans la vente. Cette personne sait vendre mieux que tout le monde, mieux que n'importe qui. Il a prouvé en tant que CEO qu'il sait diriger une entreprise de n'importe quelle taille, petite ou grande.
Quand tu dis CEO en mode américain, c'est directeur général, quoi, hein, pour ceux qui comprennent pas tout, là.
Ah, pardon, ouais. Je crois qu'en France, c'est directeur exécutif, ça doit être quelque chose comme ça.
Ouais, ouais, c'est le boss, quoi.
Ouais. Ouais, le boss, exactement. Et Peter Moore, par contre, il a une qualité que d'autres entrepreneurs ou fondateurs n'ont pas, ou dirigeants n'ont pas, c'est que c'est un malade de Liverpool. Je me rappelle quand on travaillait ensemble, il montrait son tatouage de Liverpool, alors qu'il était chez EA. Ouais. Et ça, c'était quelque chose de connu.
Le côté affect, ça compte aussi.
Ça avec la norme de Liverpool. À longue épée, il a un tatouage de Bordeaux.
Non, mais un attachement. Si t'as les compétences, t'as raison. Il y a quand même un attachement, ce qui fait que le foot est. Vas-y, quoi, je te laisse continuer, c'est intéressant. Vas-y, continue.
Il suit du PSG sur l'autre.
Et qu'est-ce que cette personne a fait lorsqu'elle est venue à Liverpool? Elle a d'abord recruté des gens qui non seulement connaissaient le foot, mais cette personne a aussi recruté des statisticiens. Et ça, je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre antenne, mais Liverpool, lorsque cette personne est arrivée, a recruté des gens qui étaient bons en statistiques et a essayé de comprendre quelles sont les métriques qui pouvaient permettre d'avoir une meilleure compréhension du foot. Les recrutements des joueurs de Liverpool
sont extrêmement
basés sur les statistiques.
C'est vrai.
Pourquoi Liverpool allait chercher ce japonais Minamoto, je crois, pour 2 francs 6 sous? C'est parce qu'il savait que ce joueur-là correspondait exactement à ce qu'il voulait.
Michael, reste avec toi encore quelques instants. On va accueillir Mathieu, qui est supporter de Manchester United et qui écoute attentivement ce qui se dit là. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir Mathieu. À tous.
Dis donc, si t'attends que Manchester gagne la Ligue des Champions, là, quand t'entends tout ça, tu dois te dire, je vais attendre un moment, non?
Ah, déjà, faudrait qu'il la joue.
Ouais, déjà, oui, effectivement.
Effectivement, le premier pas maintenant, c'est de se requalifier pour la Ligue des Champions, mais J'ai écouté avec intérêt cette analyse de Michael. Alors effectivement, moi en tant que supporter, je ne vais pas me gargariser de résultats financiers qui sont effectivement très bons. Et surtout me concentrer sur le sportif. Alors effectivement, avec l'arrivée d'Ed Woodward, parce que c'est vrai qu'on parle des Glazers, mais l'homme clé, c'est Ed Woodward, c'est celui qui a décroché tous les deals. Je pense à Chevrolet, je pense à Adidas, qui ont ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Manchester United. C'est quelqu'un qui a orienté business. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Oui, vas-y, c'est vrai.
Mais qui manque vraiment de repères et de personnes sur qui s'appuyer sur le volet sportif. Parce que effectivement, on est dans le second plan au niveau sportif, mais c'est beaucoup d'argent qui ont été investis et mal investis. Et le gros problème, selon moi, depuis le départ de Ferguson, c'est vraiment ce regard sportif en matière de recrutement. Et voilà.
Sauf que moi, ce que je comprends, c'est que c'est plus prioritaire.
Ouais. En fait, c'est là
maintenant à court terme.
C'est là qu'il y a une erreur que moi je corrigerais si j'étais dirigeant d'un club comme ça ou d'un club tout court, c'est que je fais le business, ok. J'intègre le fait qu'on peut pas tous gagner. Ça c'est très important de pas aller cramer les finances pour acheter des joueurs en disant je vais gagner et tout.
Oui.
Comme a dit Michael, c'est impossible de dire sur les 10 prochaines années qui peut gagner ou comment, surtout dans une concurrence comme celle de la Première Ligue. Mais il ne faut jamais sortir des clous de ce qu'est l'histoire de ton club. C'est qu'à défaut de gagner, tu représentes quelque chose, c'est-à-dire une force historique dans le football forte. C'est un peu comme l'OM quand j'en parlais tout à l'heure. Et c'est qu'au moins, de par les dirigeants que tu choisis, de par ce que tu dis ou ce que tu fais sur le terrain, tu ne dois jamais être dans le ridicule ou renier tes valeurs. Mourinho, quand il est à Manchester United, il fait renier certaines valeurs de Manchester United, qui est un club qui a toujours voulu jouer, qui ne devait jamais se taper la honte contre Liverpool. Tu vois, tu as des balises qui existent de temps en temps. Chaque club a ses balises comme ça, surtout les grands clubs.
Oui.
Et que tu ne gagnes pas, ok, tu peux pas te gagner. Fais ton business si ça marche, bosse sur ton histoire, mais ne sors pas de ces clous-là. C'est pour ça que les Marseillais étaient à ce point fiers d'avoir Bielsa. Ils disaient, de toute façon, on n'a pas d'oseille, machin. Mais ce qui nous fait faire sur le terrain, ça fait qu'on parle de bien... De nous, on est fiers, on est dignes, on se bat, on joue bien, on a une grinta.
Ouais, ça marche.
Ça correspond.
Temps,
exactement.
Non, mais il faut que ça fasse en sorte que ça dure longtemps. Et là, on en revient au problème
si tu
actuel.
Pas pendant un certain temps.
Mais tu ne peux pas gagner tout le temps.
C'est ce qu'on disait tout
mais
à l'heure.
Pas tout. Je te parle pas de gagner tout le temps.
Non,
mais je prends l'exemple de Lyon. Lyon, c'est depuis 2012.
Oui, mais c'est là qu'il y a un problème.
12, le dernier tri.
Jérôme, déjà soigne ça. Déjà soigne ça.
Oui.
Soigne ça.
On va conclure avec Michael.
Et ensuite, Manchester United, là où il y a le problème, c'est que Mourinho, et c'est ce que je disais lundi, Michael, et là, je crois que tu me l'as écrit dans ton mail, et t'as raison, et Julien Laurence nous disait ça aussi. Nous, on oublie, vu de France, que, Alex Ferguson a pu, au soir d'un Manchester-Liverpool, se fâcher tout rouge et dire Mourinho stop, mais Solskjaer, c'est pas pareil. Et ça, nous de France, on a du mal à comprendre ce que représente Solskjaer pour ce club.
Ah, peut-être. Exactement. Michael, le mot de la fin, c'est pour toi, vas-y.
Et je dirais que ce que dit Daniel est extrêmement important. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours gagner, mais on doit protéger le positionnement de la marque.
Exactement.
Manchester est aussi le plus grand club du monde parce qu'elle a écrit sur la dernière décennie ou les deux dernières décennies, la plus belle histoire au monde avec Alex Ferguson. Quelqu'un qui vient pratiquement de rien, qui a tout reconstruit à force de travail, de dedication, comme disent les Anglais. Et ça, c'est extrêmement fort. Donc, pourquoi aujourd'hui, et je crois que la semaine dernière, quelqu'un demandait sur votre antenne, mais que pensent les supporters? Et en réalité, c'est que les supporters, pratiquement aucun ne déteste Ole Gunnar Solskjaer. Parce que Ole est une vraie légende là-bas. On méprise un peu Olé en France parce que c'est le super sub, etc. Il n'est pas extraordinaire comme joueur techniquement, on dirait. Mais c'est une incroyable légende,
c'est
à Manchester.
C'est
Et c'est une légende parce que cette personne épouse absolument toutes les valeurs cœur de Manchester.
C'est vrai.
C'est un gros, gros, gros travailleur. Il dit toujours que nous, on peut perdre surtout, mais on ne va pas courir moins que les autres.
Mmh. Michael, merci. Quand tu passes en France, tu viens nous voir. Hein.
Absolument.
On se fera un petit débat là en plateau là-dessus avec toi. Salut Michael, merci beaucoup.
Salut.
Voilà, Michael, salut, qui nous écoute depuis la Californie, donc qui bosse dans ce milieu-là, c'est
moi,
intéressant, effectivement.
Pour comprendre le football de demain, c'est des enjeux majeurs, ça.
Et le football de maintenant, c'est Pau Bordeaux. On est très loin donc de la Californie.
Là, à Bordeaux, les Américains, en revanche, là, je crois qu'ils n'ont pas tout compris.
Ah ouais, bah les Girondins, ils n'ont pas d'oseille, ils n'ont pas de résultats. C'est terrible. Il y a 2-1 pour Pau. Il reste moins d'un quart d'heure dans ce match. Bordeaux qui pousse et en plus, voilà, Jérôme, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est le genre de match où tu sens que bah rien ne va te.
Ah oui, oui. Ouais, ils ont frappé deux fois sur les poteaux.
Tu prends le poteau derrière, tu prends la barre transversale. Ouais, tous les faits de jeu sont contre toi. Ça sent vraiment pas beau.
Ouais, et puis là, les dernières minutes, elles vont pas servir aux Girondins, parce
14
que
minutes, là,
le public va être excité, ça va transcender les joueurs d'en face qui sont carbonisés, hein, ça se voit, mais ils vont avoir l'énergie suffisante pour encore essayer d'apporter un petit peu de danger sur des contres, sur le but de Costil, et comme ça te fait gagner un peu de temps, donc non, moi je les sens mal barrés là, ouais. Les Bordelais.
Coaching très offensif, hein, de Souza qui a fait entrer quand même Briand, Depréville à la place de milieu de terrain, mais c'est vrai qu'on le sent pas ce match pour les Girondins de Bordeaux. 2-1, il reste un petit peu plus de 13 minutes à jouer dans cette partie.
Merci Nico, à tout de suite. Tiens, puis-je conclure avec ce petit message de Bijolet sur Direct Studio qui lui dit, regardez aux États-Unis les Dallas Cowboys en NFL, ils n'ont pas gagné un Super Bowl depuis 30 ans et pourtant c'est eux qui gagnent le plus de thunes, tout sport confondu, c'est le club le plus cher du monde. Voilà.
Mais c'est vrai que ceux qui sont supporters de cette équipe-là, ils doivent se régaler de savoir que c'est eux qui gagnent le plus d'argent.
Mais ça, après, bon, le modèle américain,
ils vont toujours
comparé avec eux, c'est toujours un peu spécial.
Oui, oui. Ils vont toujours au stade, genre, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre en fait.
Mais moi je l'ai compris, sauf que je suis
globalement.
Moi je suis trop passionné, comme la plupart, pour voir un club ne pas gagner pendant aussi longtemps, quoi. C'est pas possible. Alors après, j'ai très bien compris, et Michael a bien raison là-dessus, et ce que tu disais aussi, c'est que t'es jamais sûr de gagner, parce qu'il y a très peu de compétition. Donc là, oui, là, on est OK. Mais sur une durée de 7-8 ans, au bout d'un moment, il faut gagner des choses, quoi. Oui.
Dans quelques instants, toute l'actu mercato du jour, la suite de Pau Bordeaux et l'Allemagne à suivre dans l'after. On revient dans quelques instants.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Antel, avec Daniel Riolo, bien sûr, et avec Nicolas Paolo Orsi. Pour Pau Bordeaux, égalisation bordelaise il y a quelques secondes.
Ouais, l'égalisation bordelaise sur un superbe coup franc direct signé Nicolas Depréville. Il était juste à l'entrée de la surface de réparation. C'était pour un droitier. La frappe en force côté gardien. On sait qu'il a une frappe de balle impressionnante, hein, Depréville. Et le gardien, là, Benjamin Bertrand, qui était en retard. Ça fait 2-2. Égalisation méritée pour les Girondins de Bordeaux qui continuent de pousser. Il reste 7 minutes pour faire la différence dans le temps réglementaire de cette partie. De partout.
Ils ont un gardien bizarre, hein, Pau, quand même.
Il a fait quelques arrêts. Notamment
Une
parade
sur
sa ligne.
Oui, si tu lui mets le ballon à 30 cm de lui, il va faire un plongeon. Hein, ça,
non, mais
c'est
alors,
sûr,
j'ai pas sa taille, j'ai pas ses mensurations, il a un petit côté Jérémy Jeannot au niveau du gabarit. Bah,
exactement, parce qu'il y a un gros problème. Déjà, tout à l'heure, quand il y a eu un tir lobé, là, il est lobé, il plonge d'une façon, il a de la chance, le ballon rebondit sur le poteau et sort, et ressort. Et là, le coup franc, il le prend côté, quand même de son côté.
À mi-hauteur en plus, le ballon n'est pas en pleine lucarne.
Il anticipe au-dessus du mur, ouais. Franchement, il a fait la totale là, sur ce but. Alors après, ça n'enlève en rien en Depréville qui met une belle frappe enroulée. Et bon, si à chaque coup franc à cette distance-là, juste une petite frappe enroulée côté gardien, ça suffit pour faire but, des coups francs, il va y en avoir un paquet. Hein.
2-2 donc, il reste 7 minutes à jouer, peut-être une prolongation donc dans ce premier 16e de Coupe de France. Polo Breitner is back. Ouais, c'est fini l'hibernation de la Bundesliga. Polo, il est revenu de où est-ce qu'ils vont les clubs allemands là? Oui, dans le golf. Dubaï et tout ça. Salut Polo.
Je pense qu'il a bien mangé.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde, tous mes vœux pour l'année 2020, auditeurs, téléspectateurs et tout le monde.
Écoute, qu'est-ce que tu souhaites au foot allemand pour 2020?
Au moins
un doublé Ligue des Champions,
Quart de finale Bayern Dortmund, réédition 2013.
Ouais, ça serait sympa, mais je ne sais pas. En tout cas, qu'il fasse un bon parcours et honneur au foot allemand, et surtout que la Bundesliga nous offre dans cette deuxième partie de saison du spectacle, des buts, des stades pleins.
Non, mais Polo, je te connais meilleur.
Est-ce que Polo, si c'était un Polo de la grande
soirée, tu aurais dit que la Bundesliga confirme son statut de meilleur champion du monde.
Tu crains qu'il n'y ait plus un club allemand
Je veux un défi, Polo. À la Julien Laurence.
Alors.
un club allemand gagne la Ligue des Champions et l'Allemagne, l'Euro, et t'invite tout le monde à bouffer.
Purée, et j'ai pas les moyens, moi.
Jérôme, il y a tout ici.
On va manger dans le resto de Daniel, ça va pas te coûter bien cher.
Écoute. si l'Allemagne remporte l'Euro 2020, je vous invite. Ok.
Ok. Très bien.
Ça va comme ça.
Tu remarques que la Ligue des Champions, je connais mon polo, c'est un malin. Il a dit l'équipe d'Allemagne parce qu'il n'y croit pas du tout. Alors que la Ligue des Champions, il se dit c'est
non,
possible.
Il a dit le contraire. Il vient de dire le contraire.
Justement, je... Bah écoute, il y a quand même une sacrée baffe qui date de 2018 à effacer de l'histoire du foot allemand. Et donc, j'aimerais bien, en effet, que l'Euro 2020 soit le début de la reconquête naturelle, évidemment.
Alors, parle-nous pour démarrer du Borussia Dortmund, puisqu'on le sait maintenant.
Naturel,
évidemment. On le sait, évidemment, dans un mois, c'est le match aller face au PSG, les dernières nouvelles du Borussia.
Où est-ce qu'ils étaient en vacances, bon,
ils sont toujours en Espagne, en général. Alors, depuis les relations entre Merkel et Erdogan, les départs en Turquie pour l'hiver se sont un peu raréfiés. c'est un peu plus compliqué. Donc, ça va plutôt en Espagne. Alors, ils y vont beaucoup plus. Il y en a certains qui vont dans le Golfe, parfois aux États-Unis, etc., faire des tournées. Le Portugal, en général, est choisi aussi. Donc, là, encore une fois, la Turquie est plutôt absente. Alors, c'est un grand... c'est d'habitude, ils y vont assez souvent. Pour revenir au Borussia Dortmund, plusieurs informations très, très importantes. La première, c'est que le Borussia Dortmund va de nouveau... évoluer dans une défense à 4. Vous savez qu'on était, on s'était arrêté sur la fin de la saison dernière sur une défense à 3 qui était très très surprenante d'ailleurs avec la rentrée de Zagadou, notamment le français, le jeune français. Donc ça, c'est une première information qui me semble importante. La deuxième chose qui est impressionnante évidemment, c'est le calendrier pour arriver justement à cette confrontation avec le PSG, c'est-à-dire que le Borussia Dortmund, dont on l'a quitté, vous savez, moyen, il y avait des bleus un peu partout, etc., on savait pas trop ce que ça allait donner. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions de façon un peu compliquée, merci l'Inter encore une fois. Et le si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les trois premiers matchs du championnat, donc jusqu'à la fin janvier, ce sont des équipes abordables pour le Borussia Dortmund, puisque ça va être Augsbourg à l'extérieur ce week-end, et puis ensuite Cologne et l'Union Berlin à domicile, ce qui va les permettre de faire monter en gamme petit à petit avant un déplacement très compliqué à Leverkusen, mais qui permettra de se tester vraiment. La troisième information qui me semble très importante, c'est évidemment, et là les informations que j'ai vues étaient fausses, puis en tout cas elles n'ont pas été vérifiées, c'est que le Norvégien Haaland de Salzbourg n'est pas parti à Leipzig comme plus ou moins prévu, mais il s'est retrouvé au Borussia Dortmund pour des raisons qui sont assez simples. Nagelsmann, le coach de Leipzig, souhaitait Haaland, mais pas forcément tout de suite. C'est-à-dire qu'il le préférait cet été. En gros, il est très content de ses attaquants en ce moment. Donc, c'était une explication. On ne lui garantissait pas aux Norvégiens un temps de jeu qu'il souhaitait. C'est-à-dire qu'en gros, il va être titulaire au Borussia Dortmund et non pas à Salzbourg, à Leipzig. Et la troisième chose qui me semble importante, c'est qu'il est fort possible que, je ne sais pas si vous avez vu les transferts un peu qui se passent en Autriche et à Leipzig, mais on est en train de dégraisser d'une façon assez impressionnante, puisqu'on a déjà trois départs, du côté de Salzbourg. Et il y a Diego Demeu qui est parti à Naples, qui était quand même le numéro 6 de Leipzig. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment dans la Galaxy Red Bull, mais si vous voulez, c'est une des explications pourquoi Haaland se retrouve plus à Dortmund qu'à Leipzig. Alors c'est intéressant parce que en fait cette arrivée, alors il faut savoir que depuis un mois on ne parle que de Haaland en Allemagne, mais tout en sachant qu'on n'attend pas forcément des miracles. Tout simplement parce qu'on ne sait pas trop finalement quel est son véritable niveau. Il va passer quand même du championnat autrichien à la Bundesliga allemande, c'est pas du tout tout à fait la même chose. Ok, il a brillé en Ligue des Champions, mais c'est vraiment un nouvel environnement pour lui. Il est encore très jeune, ne l'oublions pas. La chose qui est très importante, c'est surtout que Marco Reus va pouvoir jouer enfin à son véritable poste avec Lucien Favre, c'est-à-dire qu'il va être en 9,5, qui est son poste où il est le meilleur. C'est comme ça qu'il avait vraiment explosé en championnat allemand sous Lucien Favre, justement, à l'époque où il était au Borussia Mönchengladbach. Et ça me semble très intéressant de voir ce schéma de jeu et de voir ce que va faire Lucien Favre ces prochaines journées. Par contre, encore une fois, est-ce que Lucien Favre a eu son mot à dire sur l'arrivée du Norvégien ? Je suis désolé, les informations dont je dispose, c'est qu'il n'a pas eu vraiment le droit à la parole. Et en fait, on lui a imposé ce gabarit. Et n'oublions pas que Lucien Favre n'est pas un grand adepte de ses gabarits, en gros, de ses joueurs de surface, parce qu'il demande à ses attaquants de beaucoup bouger en général. Et il préfère jouer avec 2,9,5, pour ceux qui se rappellent Max Kruse, par exemple, internationalement, ou des joueurs comme ça.
Même si Haaland, attention, il a aussi cette capacité-là. Enfin, il court beaucoup. C'est pas juste.
Je, je, Je dis pas qu'il n'est pas messieurs par rapport au gabarit qu'il a, c'est très surprenant. Ouais. Alors on avait évidemment
un gabarit grand et à battre du terrain, hein, je veux dire, c'est pas
il y en a pas tant que moi je me rappelle de Balotelli à Nice qui était d'ailleurs
c'était un plomb.
Ouais, mais c'est donc évidemment à 19 ans et encore, il a quand même beaucoup de choses à apprendre à Allende, hein, donc ça va être un petit peu intéressant de voir ça. Ça ne renforce pas forcément la position du Suisse, de l'entraîneur suisse qui est toujours, j'ai pas envie de dire en danger, mais on repart sur 6 mois un peu compliqué. Et je pense qu'il y aura un bilan au bout de ces deux prochaines, à la fin de la saison, pardon, et on verra si Lucien Favre sera encore le coach du Borussia Dortmund. Mais en tout cas, la configuration pour arriver en forme contre le PSG est là, c'est-à-dire qu'on a vraiment des matchs entre guillemets relativement faciles en Bundesliga pour monter, un test contre Leverkusen et puis ensuite on aura évidemment le PSG.
Dans quelques instants, tu vas nous raconter le reste, tout ce qu'il faut savoir pour la reprise, notamment le duel entre le Bayern et Leipzig pour le titre. Mais juste d'abord, on fait un point sur Pau-Bordeaux, on est dans le temps additionnel, Nicolas Paul-Orsi.
Il reste 2 minutes, il y a 2 partout, le ballon pour les Bordelais avec Bazic dans la surface de réparation, il y a une bonne occasion pour les Bordelais, le centre de Bazic s'est coupé par Camille Soko qui va dégager ce ballon, ça commence à être compliqué hein, physiquement pour les Palois, même s'il y a des opportunités en contre là avec Gueye qui a un 3 contre 3 à jouer, il se relève, il va réussir à conserver cette balle, mais monsieur Benelhadj va rendre le ballon au Girondin. Il reste 1 minute 30 dans cette partie, 2 partout avant les prolongations.
Bon, on va prolonger alors.
Bon, très bien, il reste 45 secondes hein, avant la prolongation. Attends, on va quand même attendre que ça siffle, on sait jamais.
Avec de Préville pour Benacer, la frappe d'Aïd Benacer, oh la parade de Benjamin Bertrand qui vient claquer ce ballon alors que la frappe d'Aïd Benacer a été logée sous la barre transversale. Belle parade là pour le coup, alors qu'on avait la sensation qu'il était un petit peu lobé une nouvelle fois. Bertrand, il vient sortir ce ballon, ça sera un corner pour les Girondins de Bordeaux. Du coup, il doit rester une quinzaine de secondes.
Ouais, je pense que s'il reste debout, il la prend tranquille la balle.
Oui, c'était un peu pour la photo, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, il nous a fait une Jérôme Alonso.
C'est vrai que physiquement, il y a quelque chose. Un mix entre Jérémy Janot et Jérôme Alonso. Le corner, le dernier corner pour les Bordelais.
En tout cas, ils ont des points communs, tous, et ils ne bloquent pas un ballon.
C'est vrai qu'il a dégagé ce ballon. Ouais, il l'a capté, Jérémy Janot, t'as raison. Le corner, frappé de la gauche vers la droite par De Préville. Au premier poteau, c'est coupé, c'est trop écrasé. Il y aura une deuxième chance pour De Préville. Toujours pas de coup de sifflet de M. Benelhadj. Il est bien frappé. Ce ballon, deuxième poteau, ça sera un nouveau corner pour Bordeaux qui continue de pousser. Monsieur Benelhadj qui ne siffle pas le coup de sifflet final, on va le jouer ce dernier corner avec Maxime Pungé qui va le frapper, qui traverse tout le terrain. Les Bordelais qui dominent largement cette partie, mais les Palois ont marqué en contre 2 fois, un petit peu contre le cours du jeu et sur une pelouse catastrophique hein, on va pas dire indigne d'un 16e de finale de Coupe de France, mais là clairement pour contrôler un ballon c'est très compliqué sur une moitié du terrain, c'est compliqué de jouer. Le corner de Pungé, il y a Méchère au deuxième poteau, il y aura une faute bordelaise et ce sera très probablement la dernière action de cette partie. Monsieur Benelhadj qui siffle, prolongation entre Pau et Bordeaux devant 16 000 supporters ici au stade du Hameau.
À tout de suite pour la prolongation et pour la suite de l'actu allemande, bien sûr la Bundesliga en France week-end, et puis à 23h on va parler stats des attaquants. Vous allez voir, ça va être très intéressant pour mieux évaluer l'efficacité des attaquants juste après 23h, sans oublier Julien Cazard qui nous rejoint dans un quart d'heure. À tout de suite dans l'after.
RMC 21h30,
l'after foot, Gilbert Bribois
avec Jérôme Bretagne, Daniel Riolo bien sûr et Polo Breitner. La Bundesliga reprend ce week-end, Polo est de retour plus fort que jamais bien sûr. La prolongation va démarrer hein, entre Pau et Bordeaux en Coupe de France, il y a 2-2 après donc les 90 minutes de temps réglementaire comme on dit dans le milieu. Polo, Bayern ou Leipzig, tu penses que ça va se jouer entre ces deux-là pour le titre?
Bah écoute, c'est le scénario le plus probable et de toute façon c'est.
T'oublies Mönchengladbach là, tu nous les mets.
Non, je vais expliquer pourquoi. C'est qu'en fait il y a eu un sondage assez impressionnant du journal Kicker, c'est qu'ils font fait des bilans tous les 6 mois, etc. Parce qu'il faut bien meubler pendant cette trêve. Et en fait on interroge donc tous les gens qui veulent voter évidemment. Et le Bayern est toujours le favori à 41% par exemple pour le titre et 40% pour Leipzig. Et les autres n'existent quasiment pas. Donc on voit bien ce qui va se passer. D'ailleurs le calendrier fait que la logique veut que Leipzig et le Bayern reviennent et dépassent les autres équipes. Mönchengladbach d'ailleurs a un match très compliqué demain pour le retour pour le Rückrunde 2. J'ai un mélange en français.
Oui, le retour à la compète.
Pour le retour à la compète, voilà. Le contre Schalke qui va en déplacement, donc à Schalke ça va être compliqué pour eux. L'effectif n'est pas aussi bon que celui de Leipzig et le Bayern. Et donc en fait c'est le scénario qui, à mon avis, va être le plus intéressant et celui qui risque de se passer, ce qui ne veut pas dire, par exemple, que le Borussia Dortmund ne peut pas revenir, ce qui ne veut pas dire que Leverkusen ne peut pas faire un super parcours match retour, mais officiellement, on va dire, c'est Leipzig et Bayern qui vont se détacher pour une lutte, d'ailleurs, qui risque d'être au couteau lorsqu'on voit le calendrier. Rappelons une chose, c'est que le Bayern Munich a toujours un effectif extrêmement limité. D'ailleurs, il y a encore eu des petites passes d'armes entre le directeur sportif, donc Salihamidzic, d'un côté, et le nouveau coach Hans-Dieter Flick, où Flick, en gros, demande des renforts. Il demande notamment un poste derrière droit, ce qui n'est pas un bon signe au passage pour Pavard. Et Salihamidzic dit non, on a tout ce qu'il faut, etc. Sauf qu'il y a toujours des blessés. Coman ne jouera pas ce week-end. Gnabry revient tout juste de blessure. Lewandowski était un peu malade, etc. Donc on est vraiment, c'est un peu ce qu'on dit que depuis les six premiers mois, c'est-à-dire c'est quand même ce renouvellement de l'effectif nécessaire, tardif et mais nécessaire, à ses limites, c'est-à-dire qu'on a quand même 14-15 joueurs maximum qui peuvent jouer au Bayern Munich. Alors de l'autre côté, on a la
Pardon ? Je dis, c'est quand même étonnant, c'est le Bayern, quoi.
Tu sais, ça fait plus de 3 ans, moi, que les journalistes allemands me disent qu'il ne se passe plus grand-chose au Bayern Munich. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que n'oublions pas que dans les bureaux, il s'est passé quelque chose de très important au début de l'année 2020, puisque Oliver Kahn est rentré officiellement au directoire du Bayern Munich, et il prendra la place de Rummenigge à la fin au 1er janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il va y avoir un véritable changement, et notamment un changement de stratégie. N'oublions pas que Uli Hoeneß a pris du recul au niveau de l'association, et Rummenigge en fait va préparer son départ, et donc tout ça va changer beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le directeur sportif reste longtemps, Salihamidzic. Et donc on a des choix stratégiques à faire, et on a bien vu ce qui s'est passé lors de ce mercato, du dernier mercato estival. C'était pas terrible, sans parler évidemment de la blessure de Leroy Sané. Mais on est très très limité. Vous voyez en défense centrale les blessés entre Lucas Hernandez qui sera pas encore là, Zule, on sait même plus ce qu'il fait, même si apparemment il y a des nouvelles très très intéressantes au niveau dans l'objectif de l'Euro 2020. Et au milieu de terrain, si on demande un arrière droit, c'est-à-dire que Kimmich est vraiment au milieu, donc qu'est-ce qu'on fait de Thiago, qu'est-ce qu'on fait de Goretzka, qu'est-ce qu'on fait de Tolisso, le français? Il y a quand même plus grand monde lorsque tu vois. Donc Coutinho va encore une fois sûrement être déplacé sur le côté gauche. Tout ça est intéressant. Alors donc c'est pas un problème de qualité de l'effectif, mais plutôt de quantité. À l'inverse, Leipzig, lui, peut se permettre de jouer quasiment avec deux équipes lors de toutes ces compétitions, malgré des blessés aussi en défense centrale. Donc, si tu veux, il y a aussi un autre message qui passe en Allemagne en ce moment, c'est que, et si finalement le Bayern, ce serait pas une bonne chose de perdre la Bundesliga, histoire de se remettre vraiment en cause, en fait. Et de laisser le titre à Leipzig, etc., qui serait un titre, entre guillemets, un peu surprise, et qu'il faudrait pas le donner, de donner plus d'importance que ça, ce serait intéressant pour le projet de RB, mais si ce serait, ça se justifierait tous les investissements, mais il ne faudrait pas en faire une superbe équipe encore. On en a souvent discuté les dernières avec Daniel à ce niveau-là. C'est que c'est toujours une équipe qui progresse. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends un exemple en Ligue des Champions. Il est impensable que le Bayern Munich chute 2 années de suite en 8e de finale de Ligue des Champions. Et pourtant, c'est Chelsea en place. On sait que c'est en face, pardon. On sait que ce sera compliqué.
C'est quoi les matchs de ce week-end, là, Polo, pour conclure, les grands matchs à suivre?
Schalke, Borussia Mönchengladbach.
Gladbach, il y a Leipzig qui commence très facilement, enfin contre l'Union de Berlin à domicile, donc logiquement. Et tandis que le Bayern Munich se déplace dans ce qu'on appelle en Allemagne très pompeusement le projet le plus intéressant d'Europe, c'est au Hertha Berlin. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a eu un investisseur très sulfureux qui est arrivé l'été dernier, Lars Lindhorst.
C'est qui pourquoi sulfureux?
Ben parce que ça fait partie de ces nouveaux milliardaires qui ont gagné à la bourse et qui ont aussi tout perdu. Donc ils se sont refaits.
Si tu veux, un peu comme au poker. Il a plus de thunes alors.
Non, mais il s'est refait, donc il a quand même prévu d'investir en tout.
Il s'est refait, il veut tout mettre sur Tousa. Ouais.
Non, mais il y a beaucoup de noms qui circulent. Il y a quand même beaucoup de noms qui circulent, et donc c'est un projet, encore une fois, j'ai envie de dire à l'allemande, c'est à moyen à long terme. Ce qui est sûr, c'est que ça serait intéressant d'avoir un club berlinois. Bah oui. Qui serait en concurrence dans 3-4 ans, par exemple, pour gagner le titre en Bundesliga. N'oublions pas que l'un des surnoms de Berlin au niveau football, quand même, c'est le Londres du pauvre. Donc c'est assez.
C'est vrai que Berlin, c'est sans doute la seule grande capitale européenne où il n'y a pas un club de foot très fort, quoi.
Mmh. Bah, oui, mais c'est l'histoire qui parle.
Pendant une dizaine d'années, il y avait Paris aussi.
Oui, bah là, non.
Il y a aussi l'histoire qui parle. C'est,
tu diras,
c'est très
oui, si Rome est toujours là quand même si c'est pas exceptionnel.
Ah, Rome, en ce moment, ça va. Ils ont un club qui marche plutôt pas mal. Et dis-moi,
et
cet hiver, on n'a pas du tout avancé sur le nom du futur coach au Bayern pour l'année prochaine. Il n'y a pas des trucs qui s'annoncent.
Non, bah justement, parce que je le dis très honnêtement, et on en a souvent parlé l'année dernière, c'est que tous ces changements.
Il va pas rester, Jean-Didier.
Moi, j'en suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Enfin, il va rester jusqu'à la fin de la saison. Mais
oui, l'année prochaine, ça peut pas être lui. Ça peut pas être Jean-Didier Flick.
Mais tu sais, imagine qu'il fasse des exploits en Ligue des Champions et qu'il aille chercher Jean-Pierre, le titre. Jean-Didier,
Hans Dieter.
C'est pas Hans Peter,
c'est Hans Dieter.
Jean-Didier. Pardon.
Merci, Polo.
Voilà. Allez. Ciao.
Bah écoute, on se retrouve lundi pour analyser tout ça ensemble, bien sûr, comme de coutume. Ciao pour le bon week-end.
Salut.
Point score, la prolongation entre Pau et Bordeaux, Nicolas.
Avec ce ballon dans la profondeur pour Gay, il y a toujours de partout entre Bordeaux et Pau. La mauvaise relance de Gay, en poussant. On aurait pu en profiter du côté des Paulois, mais la frappe dévissée de Nam, ça fait toujours de partout. On joue depuis 6 minutes dans cette prolongation.
François Bérou est au stade.
Je ne l'ai pas vu. C'est une très bonne question.
Est au stade.
Je ne l'ai pas vu non plus.
Est-ce que Jean Lassalle est dans le coin?
Je ne l'ai pas vu non plus. Je n'ai pas vu grand monde. Vous remarquerez.
Personne, en fait.
Vous remarquerez que j'ai pas vu grand monde.
Si c'est dans le coin.
Ah, c'est vrai.
Est-ce que l'ours Canel est dans le coin?
Aucune idée.
Est-ce que Rabiot vient pas de Pau?
Alors Rabiot, il a été au centre de formation à Toulouse. Est-ce qu'il vient de Pau? Je sais pas.
Ah, ça me dit qu'elle
est pas un lien avec Pau.
Peut-être.
Le Duc, ouais, le Duc, il doit.
Ça me fait penser que la maman du Duc
oui, sur, parler.
Était c'est à la prévu. Télé tout à l'heure.
Elle a envoyé un peu sur
Estelle.
Ouais, elle a envoyé,
du lourd, madame la Duchesse.
Sur le président.
Dans quelques instants, nous sommes de retour. On va parler des stats des attaquants et donc le mercato également à suivre, plus Julien Cazard évidemment. À tout de suite dans l'After.
RMC, 21h minuit.
L'After Foot.